Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Quel avenir pour la Palestine et Israël? C'est le titre du colloque qui s'est tenu à la Sorbonne le 19 juin dernier à l'initiative d'Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias, universitaires à l'École pratique des hautes études. Aligre FM, partenaire de l'événement, vous propose d'en écouter les interventions et débats.
Mesdames, Messieurs, nous allons commencer. Merci de vous être inscrits, d'être venus en affrontant cette chaleur épouvantable, d'avoir réussi à passer le contrôle. Donc, vous avez déjà traversé maintes épreuves et je vois que vous êtes déjà disposés à nous écouter, mais pas seulement à nous écouter. Je vous le rappelle, un temps important sera laissé à la salle pour s'exprimer, poser des questions, émettre éventuellement des objections, poser des questions aux intervenants. Bref, il y aura un long moment de débat. Donc, merci à tous d'être venus. Donc, cette séance sera l'objet d'une captation par Radio Aligre, hein, qui est une radio parisienne. Et l'intégralité de nos débats seront accessibles en audio. Donc, tout ce qui se dira ici sera enregistré, ça c'est pas très grave, mais surtout, rien de ce qui sera dit ici ne sera perdu. Et les présents pourront réécouter ce à quoi ils ont participé, et les absents pourront se tenir au courant. Alors, lorsque nous avons lancé nos invitations et cherché à rassembler quelques intervenants, l'une des premières personnes à laquelle nous avons pensé, c'est Leïla Chahine. Leïla Chahine, à qui nous avons tenté de passer des coups de fil, nous avons essayé de la joindre à plusieurs reprises, elle n'a pas répondu, et vous savez ce qui est advenu peu de temps après d'ailleurs que nous essayions de la contacter. Alors je vous propose, Esther Benbassa et moi-même, nous vous proposons de dédier cet événement à la mémoire de Leïla. Vous tous l'avez rencontré, connu, peut-être entendu, voire pratiqué, fréquenté. Et la première personne à laquelle nous avions pensé, ça semble assez naturel. Leïla nous manque. Hein, ce qui nous manque, c'est sa clarté, sa pugnacité, évidemment. Son universalisme sincère, sa voix, je n'ose dire son accent, sa voix et bien sûr son sourire et la générosité dont elle ne se départait jamais. Donc nous dédions cette séance à Leïla, à sa mémoire, et je ne peux pas non plus ne pas évoquer un autre grand disparu tout récent dont certains se sont ingéniés à dire le plus grand mal et dont je dirais plutôt du bien. Il s'agit d'Edgar Morin, qui avait ses défauts, ses limites, faiblesses, mais qui était un grand, vraiment un grand. Et je pense que nous pouvons évoquer là aussi sa mémoire. Je vous rappelle qu'il y a plus de 20 ans, il était poursuivi pour diffamation raciale parce qu'il avait osé dénoncer le comportement d'Israël à l'égard des Palestiniens. Il a été poursuivi par les ancêtres, les prédécesseurs immédiats de ceux qui, aujourd'hui, rêverait certainement de faire subir le même sort à quelques-uns et à quelques-unes d'entre nous. Fort heureusement, à la fin, Edgar Morin a été innocenté, en cassation tout de même. C'était la moindre des choses. Je ne sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui. Je dois remercier enfin... Alors, je ne vais pas remercier Esther, ce qui paraîtrait un peu étrange, mais je la remercie pour son opiniâtreté, ses idées, son sens de l'initiative, hein, évidemment. On a porté ça comme on a pu, c'était difficile, c'était un peu délicat, Je suppose que le contrôle auquel vous avez été soumis vous dit quelque chose de l'inquiétude que la tenue de cet événement a pu susciter dans certains esprits. Et je veux remercier tout particulièrement Michel Hochmann, président de l'École pratique des hautes études, dont l'engagement a été indéfectible depuis le premier jour. Et sans lui, je crois que nous n'y serions pas arrivés. Donc je le remercie, Esther Benbassal le remercie. Nous le remercions d'avoir rendu cet événement possible et nous lui savons gré d'avoir pu l'organiser dans un lieu que je juge symbolique. C'est quand même la salle Liard, c'est le cœur de la Sorbonne. C'est peut-être même un peu plus que ça. C'est peut-être le cœur même de cette République des lettres et des sciences dont nous honorons les uns et les autres d'être des citoyens libres, égaux, je l'espère, et critiques. Donc je vais passer très naturellement la parole à Michel Hochmann, notre président, pour ouvrir de manière officielle cette séance.
Merci beaucoup Jean-Christophe. Non, je vais juste dire quelques mots, puisque je crois qu'il est important surtout que nous puissions en effet écouter les intervenants et débattre. Donc je vous remercie beaucoup Jean-Christophe et je vous remercie beaucoup Esther d'avoir organisé cette journée. Je suis quand même aussi très reconnaissant à la rectrice et à la rectrice déléguée d'avoir accepté de l'accueillir à la Sorbonne. Je suis également très reconnaissant à tous les participants de cette rencontre. Je voudrais souligner l'importance de cet événement, évidemment, dans le contexte présent. Ce colloque témoigne de la tradition d'accueil et de promotion d'une science citoyenne qui est très vivante au sein de notre École pratique des hautes études et en particulier dans le cadre de sa section des sciences religieuses. C'est évidemment cette tradition qu'illustre tout particulièrement Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias. Je veux rappeler à ce propos qu'avant la journée qui nous réunit, ils ont déjà organisé dès 2004 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne une rencontre intitulée « Juifs et musulmans, un passé partagé, un dialogue à construire ». Puis en 2009, Esther Benbassa a organisé à l'École normale supérieure un colloque intitulé « Israël, Palestine, état des lieux ». Et tout récemment encore, ils viennent de publier en 2024 un ouvrage auquel ils ont donc tous les deux contribué, « Israël, Gaza, la conscience juive à l'épreuve des massacres ». La mission de notre école, et je crois plus généralement bien sûr de l'université, n'est pas de mettre la recherche au service d'un engagement quel qu'il soit, mais d'éclairer par la science et par la recherche un débat public bien souvent sommaire qui instrumentalise les questions brûlantes et les conflits déchirants, et c'est particulièrement vrai naturellement des relations entre les Juifs et les Palestiniens. Je suis convaincu que c'est dans le cadre de cette mission fondamentale que doivent s'inscrire les échanges qui nous réunissent aujourd'hui et que j'attends avec beaucoup de curiosité. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Esther pour quelques mots.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir été vaillants pour venir aujourd'hui, mais votre engagement vous honore et nous sommes très heureux de vous recevoir ici. Moi, je vais poser quelques questions. Déjà, concernant le titre, quel avenir pour la Palestine et pour Israël ? Nous ne sommes pas des diplomates ici pour régler cette question, mais nous allons la creuser pour mieux comprendre certains éléments qui parfois sont sacrifiés dans la presse et ailleurs. Cette question, peu de gens finalement se la posent sérieusement, et aussi parce que beaucoup ne le voient cet avenir que bouché, ce qui n'est pas faux. Il ne s'agit ni de prévoir, ni de dicter à quiconque un avenir, juste de définir un horizon raisonnable de justice et de paix et s'interroger sur les moyens de l'atteindre. Poser la question de l'avenir oblige à un retour en arrière, bien avant le 7 octobre, bien sûr, un réexamen critique de l'histoire longue de deux peuples le peuple juif et le peuple palestinien. Tout doit pouvoir être dit ici. Aucune injustice ne doit être tue, aucune souffrance, aucun massacre. Cette histoire longue devait-elle aboutir nécessairement à l'impasse où nous nous trouvons actuellement? Et de cette impasse, comment sortir? Ici, cet après-midi, il n'y aura pas de mot tabou. On pourra dire apartheid, nettoyage ethnique, génocide et d'autres, et utiliser d'autres termes. Mais il ne doit pas non plus y avoir de mots fétiches à la mode. Ce qui importe, c'est de décrire, de comprendre les réalités qu'il y a derrière ces mots. Une dernière chose, depuis au moins les années 1920, depuis un siècle en fait, des voix juives critiques, pacifistes, se sont élevées en Israël même, en Palestine même, contre l'idée même d'un État-nation pour les Juifs, contre le sionisme tel qu'il a fini par se cristalliser, contre l'État d'Israël tel qu'il s'est construit, contre l'idéologie sur laquelle il s'appuie. Quel moyen y a-t-il d'en faire résonner l'écho de ce que ces personnes ont dit, ces penseurs ont dit, en un moment de l'histoire où personne ne veut plus les entendre? Permettez-moi de prendre quelques citations pour donner un peu de courage à la salle et de dire qu'il y a eu une réflexion, qu'il y a eu des pensées que beaucoup ont vues dans le futur État-nation, un piège pour les Juifs. Mais entre-temps, après les années 20, la Shoah est passée par là et la donne a changé. Je commencerai par les penseurs qui sont partis en Palestine après l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, tels que Martin Buber, Samuel Hugo Bergman, Gershom Scholem et Yehuda Magnes. Ils ont cherché à concilier tradition religieuse, exigence éthique et réalité politique. D'ailleurs, dès la première partie du XXe siècle, voit le jour le mouvement Brit Shalom, Alliance de la paix, sous leur houlette, qui prône la création d'un État binational, judéo-arabe, garantissant l'égalité et la liberté pour tous. Martin Buber critique déjà le nationalisme exclusif et exige une éthique du dialogue et la fondation d'un modèle binational dans la Palestine mandataire. Pour lui, la réalité politique se construit par le dialogue et l'association et nullement par la conquête et l'exclusion. Sa vision sera ces fameuses phrases, deux peuples, une terre. Les Juifs ayant souffert de racisme ne devaient pas appliquer d'ostracisme envers un autre peuple. Autour d'un programme développé, il donnait les grandes lignes de cet État binational prônant la coopération et la coexistence. Il analysait à l'avance, et là, c'est très important d'entendre ces voix disparues, les méfaits du nationalisme exclusif en fait le vrai problème des guerres et de ces violences. Les deux penseurs ne sont ni pour le recours à la force, ni pour un nationalisme recroquevillé sur lui. Ils privilégient la reconnaissance mutuelle des Juifs et des Palestiniens et le compromis politique. Le parcours de l'État d'Israël jusqu'à nos jours montre, hélas, l'échec du pacifisme et des idées des fondateurs de Brit Shalom qui lui auraient donné probablement une orientation plus viable. Ce sont les projets des nationalistes les plus radicaux qui l'ont emporté, séculiers ou laïcs, socialistes ou d'extrême droite aujourd'hui. Et je finirai avec Hannah Arendt, qui considérait la fondation de l'État d'Israël comme à la fois une nécessité historique pour mettre fin à l'apatridie juive et l'aboutissement d'un mauvais choix politique, celui de l'État-nation ethnique dans un pays déjà habité, porteur selon elle d'un conflit durable avec les Arabes palestiniens. Pour elle, le modèle de l'État-nation ethnique est déjà discrédité par la production de minorités opprimées et d'apatrides. Appliquer ce modèle en Palestine, pour elle, revenait à importer un problème européen dans un espace déjà pluriel. Elle défend l'idée d'une structure binationale ou confédérale judéo-arabe en Palestine associée à un cadre international garantissant le droit de tous. D'ailleurs, après 48, elle continue de souligner, donc après la Shoah, que l'État juif tel qu'il s'est constitué dans la guerre et sans solution politique pour la population arabe risque de se constituer en Sparte assiégée, militarisée, dépendante d'alliances extérieures et exposée à une spirale de violence avec son l'environnement. Notre collègue Sylvain Sipel parlera de cette Sparte et Aran ne parlait pas de la Sparte de Netanyahu, telle qu'il a définie récemment. La réalpolitik, bien sûr, a remporté la partie, quitte à ce que les guerres entre Israéliens et Palestiniens continuent depuis presque 100 ans, sans l'ombre d'un consensus stable. Vraiment, là, je finirai avec un de nos contemporains. Il est né en 1903, mais mort en 94, donc il est très proche de nous, Yeshayahu Leibovitz, qui est un philosophe juif majeur et une des figures critiques face à la guerre, au nationalisme et à l'instrumentalisation religieuse du politique en Israël. Ce philosophe était juif orthodoxe, donc pratiquant, réclame une séparation stricte entre la religion et l'État et considère que la démocratie israélienne ne peut survivre à la confusion entre pouvoir religieux et pouvoir politique, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il sera un des premiers a appelé dès 1967 au retrait des territoires occupés et dénonçant l'occupation comme un facteur de corruption morale et sociale pour Israël. Et je reviendrai sur un point que maintenant des penseurs d'origine israélienne ou pas qui analysent ce qui se passe et ce qui s'est passé et la monstruosité de ce qui s'est passé, utilise un peu les termes de Leibovitz sur cette question. Parce que lui, il pense que c'est parce que lors de la déclaration de l'indépendance en 1948, David Ben-Gurion s'est battu contre une constitution et que le mal est dans le fruit déjà. Puisque s'il y avait eu une constitution, d'abord, il y aurait eu des frontières gravées dans le marbre. Deux, il y aurait eu une séparation laïque séculier et religieuse, ce qui n'est pas le cas. Il n'y aurait pas eu la loi de 2018 qui proclame que Israël est un État-nation du peuple juif et aussi pour la langue d'hébreu, de la langue hébraïque qui devient une langue d'État, la seule, pas avec l'arabe comme ça a été jusqu'à 2018. Et je crois que aussi les droits des Palestiniens qui ont pris la nationalité israélienne auraient été gravés dans le marbre de la Constitution. Et pour ne pas vous effrayer, je dirais, et je finis là, il avertit que la solution militaire ne serait pas en mesure d'apporter la paix, ni de garantir la sécurité à long terme. Il ira jusqu'à qualifier certaines pratiques d'occupation de judéo-nazis, je le cite, lors de la guerre du Liban en 1982, suscitant de vives polémiques. On lui refusera le fameux prix d'Israël en 1993. Merci.
Merci Esther. Je vais prendre la parole pour quelqu'un qui n'est pas là et qui s'est excusé en début de semaine, qui est hospitalisé. C'est Madame Monique Chemillet-Gendreau, professeur émérite à l'Université Paris-Cité, qui devait intervenir sur le sujet suivant. Pas d'avenir pour la Palestine comme pour Israël sans un renouveau du droit international. Mais Madame Chemillet-Gendreau, hospitalisée, a néanmoins pu nous faire parvenir un texte, donc je me fais un devoir de vous lire. Alors évidemment, je vous le lirai avec moins de conviction, de foi qu'elle ne l'aurait fait elle-même, sans doute, mais j'essaierai d'être quand même à la hauteur de la tâche. Elle a d'ailleurs intitulé son intervention de manière très simple, « L'avenir de la Palestine et d'Israël ». Bon, c'est le sujet du colloque, ça tombe très bien. Nous sommes réunis autour de la question « Quelle perspective pour les peuples palestiniens et israéliens? Pour quelle paix? À quelles conditions? Sur quelle base à la fois réaliste et juste ?» Point d'interrogation. Ma réponse, écrit-elle, est la suivante. « Il n'y a pas d'avenir pour la Palestine comme pour Israël sans renouveau du droit international et du système international. » Et elle, s'en explique brièvement. Il y a maintenant des décennies que le conflit israélo-palestinien n'a jamais cessé depuis la fin du mandat britannique et le partage de 47. Il y a maintenant des décennies, ce conflit est une longue histoire de violation de toutes les normes du droit international. L'interdiction du recours à la force a été violée continuellement par Israël, comme le droit humanitaire en cas de conflit armé, ainsi que les droits de l'homme et l'interdiction de l'apartheid. Comme est violé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et enfin l'interdiction du génocide et à tout le moins l'obligation d'en prévenir la survenue. Ces violations, que je ne développe pas ici faute de temps, c'est elle qui le dit, sont si massives qu'elles ne permettent plus de considérer ce droit comme en vigueur pour les Palestiniens. Le système international montre à l'occasion de ce conflit sa faiblesse et même son impuissance. Le Conseil de sécurité chargé de prendre des sanctions en cas de violation des prescriptions de la charte n'en fait rien. L'Assemblée générale qui, en vertu de la résolution 377, pourrait, lorsque le Conseil est bloqué par le veto, prendre des mesures à la place du Conseil, n'en fait rien. L'Union européenne, qui doit vérifier le respect des droits de l'homme par les partenaires avec lesquels elle passe des accords d'association et suspendre l'accord en cas de violation de ses droits, ne prend aucune mesure dans ce sens. Les avis de la Cour internationale de justice sont méprisés par Israël. Les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale contre les dirigeants israéliens ont déclenché des attaques violentes contre les juges. L'ensemble des institutions internationales est ainsi grippé. Les États occidentaux protègent Israël, et les États arabes eux-mêmes ont pris le chemin de la coopération avec Israël au mépris de leur engagement aux côtés des Palestiniens. Nous savons ce qu'il faudrait faire et qui n'est pas fait. Des sanctions internationales, l'arrêt des livraisons d'armes à Israël, l'envoi éventuel d'une force internationale en Palestine. Enfin, ces violations massives ont fait des adeptes et bien des États se sont libérés des obligations édictées, accélérant la marginalisation du droit international. En réalité, cet effondrement des normes et du système mis en place en 1945, nous ne le dépasserons pas de l'intérieur du système. Il est figé en l'état, puisque toute réforme des Nations Unies est conditionnée au vote des 5 membres permanents. Nous pouvons répéter comme une ritournelle qu'il faut parvenir à la paix entre Israël et la Palestine fondée sur la reconnaissance de 2 États, mais chaque jour qui passe rend cette solution plus irréaliste, comme est irréaliste l'idée que des sanctions pourraient être prises contre Israël dans le contexte international actuel. En réalité, le système international était vermoulu depuis longtemps, mais il pouvait faire illusion alors que maintenant, son inadaptation tragique à la société mondiale apparaît en pleine lumière. Il représentait sans doute un progrès par rapport à la période antérieure, mais un progrès limité, assorti de verrous comme le droit de veto des membres permanents ou le caractère facultatif de la justice internationale. Aujourd'hui s'exprime une volonté politique largement partagée par les plus grands États de s'affranchir de toutes les règles qui avaient été édictées. Face à ce drame, les solutions inventives au désastre en Palestine ne manquent pas. Nombreux sont ceux qui, y compris parmi les Palestiniens, pensent qu'il n'y a plus d'autre solution que celle d'un État binational, dans lequel le combat serait alors pour l'égalité des droits. Mais d'autres solutions innovantes sont envisageables. Par exemple, celle de 2 États, mais unis dans une confédération qui supposerait de fortes coopérations et la libre circulation entre eux, idée défendue par Omer Bartov. On pourrait aussi imaginer une paix élargie dans la région à travers une union d'États englobant la Jordanie, le Liban, la Syrie, liées entre eux sur le modèle de l'Union européenne. Toutefois, ces hypothèses ne peuvent se développer que dans une perspective de renouveau du système du droit et du système international. de renouveau passe par des mouvements de réflexion imaginative sur ce que sera le système qui succédera à celui des Nations Unies. Laissons celui-ci subsister, car rien ne serait pire que le vide, mais travaillons à identifier les sources de son échec et à faire vivre l'idée d'un renouveau, d'un nouveau système adapté au monde d'aujourd'hui. L'absence dans la Charte des Nations Unies d'un principe de subordination explicite des États au droit international est l'une des raisons de l'échec. La nature contractuelle de ce droit en est une autre d'importance. Il n'y a en droit international que très peu de normes correspondant à un échelon législatif, c'est-à-dire de règles universelles et obligatoires. On les nomme règles impératives générales. L'écrasante majorité des normes en vigueur sont des traités qui ne lient que les parties. Encore peuvent-ils y adhérer à la carte en faisant des réserves à telle ou telle disposition ou même s'en retirer. La justice est facultative. Un État peut refuser de se soumettre aux juridictions internationales. L'imposant corpus des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, couvrant tous les sujets et souvent progressistes dans leur contenu, sont considérées comme non contraignantes. Le monde est ainsi un bateau ivre, formant société, car tous sont dépendants de tous, comme le blocage du détroit d'Hormuz le démontre de manière éclatante. Il est une société sans loi, c'est-à-dire soumise à ce qu'il y a de pire, la loi du plus fort. Nous devons donc amorcer dans les profondeurs de la société civile une réflexion sur ce que devrait être un système alternatif qui préfigurerait une démocratie mondiale dans laquelle tous les sujets, États, mais aussi peuples sans État, organisations non gouvernementales, entreprises, seraient régis par un droit commun. Celui-ci devrait comporter des normes primaires, celles qui établissent les rapports sociaux, celles-là nous les avons, mais aussi des normes secondaires, celles qui permettent l'application des premières. Celles-ci, le droit international actuel en est privé. Alors, des dérives criminelles comme celles qui caractérisent la politique israélienne pourraient être évitées. J'ajoute pour finir un propos plus concret. Ce que je propose paraît lointain, bien que les événements puissent précipiter l'urgente nécessité de repenser les relations internationales. Plus près de nous, l'avenir de la Palestine paraît condamné au statu quo et la faiblesse de la voix des Palestiniens dans l'arène internationale y contribue. La division Hamas-Fatah y est pour beaucoup, ainsi que l'effacement de l'autorité palestinienne. Il y a eu des élections municipales, des élections au Conseil national palestinien sont prévues le 1er novembre prochain et il a été admis que tous les Palestiniens y participeront, ceux de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Cela peut avoir un impact positif, notamment avec une implication des Palestiniens de l'extérieur dans l'avenir de leur pays. Mais alors, pour sortir de l'effacement actuel des Palestiniens de la scène internationale, il serait indispensable que ce Conseil national palestinien renouvelé se déclare gouvernement en exil, s'installe dans un pays hôte et se dote de quelques personnalités fortes capables d'incarner le combat de ce peuple. Il lui reviendrait de dissoudre l'autorité palestinienne qui a été un leurre, n'a aucune fonction régalienne et sert de supplétif à l'armée israélienne sur les questions de sécurité. Ce conseil, légitimé comme gouvernement par les 158 États qui ont reconnu la Palestine, donnerait un visage et un renouveau politique au combat des Palestiniens pour la plénitude de leurs droits. Ici s'achève le texte de notre collègue. Merci.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Thank you.
suite sur Aligre FM 93.1, retrouvez la seconde partie des interventions qui ont eu lieu dans le cadre du colloque intitulé « Quel avenir pour la Palestine et Israël ?» C'était le 19 juin dernier.
Alors, je vais vous annoncer maintenant Sylvain Sipel.
Oui, qui est...
Il va nous parler d'Israël Superstart. Sylvain Sipel a de nombreuses réalisations à son actif. Il collabore, entre autres, au journal En Ligne Orient 21, à l'hebdomadaire Le 1. Et son dernier ouvrage est « L'État d'Israël contre les Juifs » et à la découverte en 2020. Je n'en dis pas plus, on aurait beaucoup plus à dire. Mais...
Et ancien journaliste au Monde.
Ça fait une transition un peu compliquée, parce qu'on passe de la grande histoire à ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire de faire... un papier sur la société, sur la société israélienne aujourd'hui. Donc, je vais m'efforcer de faire un certain lien, mais c'est compliqué. Depuis le lendemain du 7 octobre 2023, la société juive israélienne balance entre un sentiment euphorique de toute puissance et des craintes diffuses d'impuissance. Les deux, la surpuissance d'un côté et la peur de l'autre, sont entretenus par Netanyahou. Le 15 septembre 2025, il déclare devant un parterre d'investisseurs et de responsables économiques israéliens qu'il entend faire de son État une superstar. Là, on est dans la toute-puissance. Peu importe si lui-même sait ou ne sait pas que Sparte, après plusieurs décennies de domination dans les guerres du Péloponnèse, a disparu sans rien laisser à l'humanité. Sparte, c'est l'incarnation de la domination par la puissance, par le glaive. Quelques mois plus tard, Netanyahou déclare qu'Israël est devenu une quasi-grande puissance. Jusqu'ici, Israël Sparte, en bientôt 3 ans, a imposé son glaive partout où il a pu. Mais politiquement, la victoire finale, tant attendue, n'a pas eu lieu sur aucun des terrains. Le génocide commis à Gaza n'a pas abouti à l'expulsion de la population palestinienne, ce qui était et qui reste son objectif. Les guerres en Cisjordanie puis au Liban, avec toutes leurs victimes, n'ont pas plus atteint leurs objectifs. Quant à la guerre avec l'Iran, l'échec politique est flagrant, au point qu'en Israël, les sondages montrent une désaffection envers Netanyahou, incapable de terminer le travail, c'est-à-dire de changer le régime après l'avoir promis. Je voudrais émettre ici une hypothèse. Israël, tel qu'il est depuis longtemps maintenant, ne sait pas mener une politique, quelle qu'elle soit, autre que l'usage de la force. Israël se veut réellement être super Sparte, pas seulement par idéologie, mais parce qu'il ne sait pas ou ne sait plus faire autre chose que la guerre. Sparte, ce n'est rien d'autre que le pouvoir dénué de toute contrainte. L'idée collective dominante, c'est que la guerre n'est pas la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz, mais que c'est la politique qui est la continuation de la guerre. Je voudrais raconter une anecdote. Un an après le 11 septembre, il y a donc 24 ans, j'interrogeais Carmi Gilon. C'était un chef du Shin Bet, un ex-chef du Shin Bet à l'époque. Il avait été chef du Shin Bet sous Rabin. Je lui demandais, pensez-vous qu'on peut combattre le terrorisme de manière efficace tout en respectant les conventions de Genève? Et voici sa réponse. Il m'a répondu, je ne connais pas les conventions de Genève. Je ne connais que le droit israélien. Je veux préciser que Gilon était un travailliste, convaincu qu'il fallait restituer à terme les territoires occupés aux Palestiniens. Mais il avait été éduqué dans cette mentalité. Israël ne respecte que sa propre loi. Le droit international n'existe que lorsqu'il est favorable. Sinon, on s'assoit dessus. On ne le connaît pas. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que le rapport israélien à son entourage est un rapport à caractère foncièrement colonial, incapable de penser autrement, et que des générations d'enfants ont été et sont éduqués dans cette mentalité-là, alors on ne comprend pas Israël, ou on ne veut pas le comprendre. Certes, je connais des Israéliens formidables, des gens qui pensent qu'Israël commet un génocide, que son occupation des Palestiniens est pire que l'apartheid sud-africain, etc., etc. Leur nombre, il faut le dire, augmente sans cesse, mais il reste une goutte d'eau dans la mer. Depuis le 7 octobre, Israël-Sparte n'a fait que piétiner le droit international, avec le soutien tacite non seulement des États-Unis, que leur président soit républicain ou démocrate, mais aussi de la grande majorité des pays européens. Ce lien privilégié et revendiqué qui unit Washington à Israël depuis des décennies reste pour beaucoup de gens une énigme. Pourquoi ce petit État, depuis les années 1970, obtient systématiquement de la grande puissance ce qu'il désire? On l'explique par divers motifs, le poids de l'évangélisme, le poids de la Shoah, le Mossad, etc., etc. Ces motifs existent, mais je ne pense pas qu'ils soient prépondérants. Ce que je pense, c'est que les Américains ont beaucoup d'autres alliés au Moyen-Orient qu'Israël. Mais dans ces autres pays alliés, ce sont les régimes qui sont pro-américains, pas les populations. En Israël, le soutien aux États-Unis est assumé par les élus et très massivement par la population juive israélienne. Israël, en 2003, était le seul pays du monde où le soutien à l'entrée en guerre américaine contre l'Irak était supérieur au soutien qui existait de la part de la population américaine. Ce qui impose ce lien indéfectible avec les Américains et les Israéliens, c'est qu'avec les Israéliens, les Américains savent avoir un allié effectivement indéfectible, un allié embêtant parfois, problématique, mais indéfectible. En revanche, si le lien entre les deux pays se brise, Washington ne sait pas quels impacts cela pourrait avoir sur les autres peuples de la région. Que générerait dans ces populations, qu'est-ce qui adviendrait s'il y avait le sentiment qu'Israël est devenu plus vulnérable? Ne pas prendre de risques, là réside le motif du lien entre Washington et la Sparte israélienne. Pourtant, ce suprémacisme spartiate israélien semble aujourd'hui chanceler. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Mais il est possible que peut-être on assiste en ce moment à ce qui est la première défaite politique radicale du gouvernement Netanyahou, non pas depuis le 7 octobre, mais depuis très longtemps. Hier, le vice-président américain James Vance, dans une attaque contre la position israélienne hostile à l'accord américano-iranien, a rappelé à Netanyahou combien Israël est militairement dépendant des États-Unis. C'était la première fois qu'un très haut dirigeant américain proférait ces menaces-là. Cessez le soutien militaire. Mais les menaces ne suffiront pas. Des menaces, Obama, Trump et Biden en ont proféré avant chaque fois de finir par se soumettre aux désidérata israéliens. Cette fois-ci, cela paraît plus sérieux. La fin des guerres au Moyen-Orient est un objectif de première importance pour Trump, au point de vue financier et politique, de politique intérieure. Mais les menaces américaines resteront sans effet si elles ne sont pas mises en œuvre. Bref, je le répète, il ne faut pas s'emballer. Un dernier point, c'est qu'Israël peut facilement faire achopper l'accord qui vient d'être mis en place dans les grandes lignes, pas dans le détail, entre les Américains et les Iraniens. Il suffit à Netanyahou de faire ce qu'il a fait à chaque fois, c'est-à-dire de tirer le premier et de placer les Américains devant une situation très embarrassante. C'est ne pas soutenir Israël, et c'est la calamité, et on ne sait pas ce qui peut se passer, et soutenir Israël, et on a l'air, excusez-moi, de ce que je pense. Et donc, il lui suffit, à Netanyahou, de bombarder l'Iran. On verra à ce moment-là quelle sera l'attitude réelle des Américains. On ne peut pas la prévoir. Par principe, c'est Trump est sans doute la personne la plus imprévisible qu'on puisse connaître. Mais on est aujourd'hui peut-être dans une situation où Sparte entre dans, peut-être, je n'ose pas dire son déclin, mais dans une crise très importante.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Maintenant, je vais passer la parole à Vincent Lemire, qui est professeur à l'université Gustave Eiffel et qui a publié plusieurs livres, donc cette fameuse bande dessinée sur Jérusalem. Et on peut citer parmi ses derniers livres Israël-Palestine, anatomie d'un conflit. Puis le dernier, paru en 2026, Jérusalem, l'histoire n'est pas écrite.
Ne soyez pas surpris par l'ordre de succession des intervenants, il est totalement arbitraire. C'est par ordre alphabétique.
Merci beaucoup Jean-Christophe, merci Esther. Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois qu'on a organisé un colloque, Esther, tu l'as rappelé, Jean-Christophe, c'était au Sénat en février 2023. Et il y avait énormément de gens dans la salle, mais on avait dû faire face pour organiser ce colloque. Alors, non pas à l'inquiétude de qui que ce soit, mais à l'indifférence. Tu te souviens, c'était le moment où on nous disait, dans tous les cercles de pouvoir, comme on dit, que la question palestinienne était derrière nous. Et à l'époque, j'avais des responsabilités à Jérusalem. Et je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, le ministère français des Affaires étrangères. Et il faut dire que les diplomates sur place étaient très, très contents de répéter cette phrase en boucle, que la question palestinienne était derrière eux. C'était vraiment, on sentait qu'ils avaient c'était leur mandat, quoi. Et leur mantra. Et quand on avait le mauvais goût de rappeler soit l'actualité ou l'histoire ou la démographie, je me souviens, l'ambassadeur me disait « Mais toi, Vincent, c'est parce que tu es historien, donc tu aimes bien regarder dans le rétroviseur. Mais regarde vers l'avenir, il y a le conflit israélo-palestinien, c'est terminé. » Voilà. Et puis on a organisé ça en février 2023. Je me souviens que parmi les intervenantes, il y avait Rima Hassan qui était là, tu te souviens, il y avait aussi d'autres, il y avait beaucoup de gens, il y avait Elias Sambar, Leïla Chaïd n'avait pas pu venir. J'avais dû lire un de ses textes et puis est arrivé le 7 octobre, voilà, qui a été évidemment comme un retour au réel, hein. Le 7 octobre, c'est le retour au réel. Alors moi je vais juste dire quelques mots sur Jérusalem parce que je constate que Jérusalem est souvent contournée. Alors par les diplomates, c'est certain, même encore aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu une grande messe avec les sociétés civiles palestiniennes et israéliennes à l'Institut du monde arabe. Je crois que le mot Jérusalem n'a pas été prononcé une seule fois au micro, ce qui est assez frappant. Alors bien sûr, y compris du côté des gens qui militent, hein. On parle beaucoup évidemment de Gaza, on parle beaucoup de la Cisjordanie, et on a raison, on parle aussi évidemment du sud Liban. Jérusalem, c'est des crises en fait qui font qu'on parle de Jérusalem, on parle de Sharjara, on parle de Silouane, on parle d'interdiction d'accès sur l'esplanade des mosquées. Mais sinon, on a du mal à se saisir de ce sujet. Une des explications, c'est sans doute que au moment du processus d'Oslo, qui reste quand même pour beaucoup de gens encore le cadre de réflexion, même s'il est mort et enterré, il s'y accroche. Dans le cadre du processus d'Oslo, vous vous souvenez, on avait mis Jérusalem tout à la fin du train de négociation, considérant qu'il fallait régler d'abord tous les problèmes avant de pouvoir régler celui de Jérusalem. Alors, c'est d'autant plus surprenant que, pourtant, cette ville, revendiquée donc comme capitale par les deux peuples, de mon point de vue, est un peu l'œil du cyclone. Et il y a des choses très concrètes. La deuxième intifada a démarré d'une certaine manière sur l'esplanade des mosquées, quand Ariel Sharon s'y est rendu avec des dizaines et des dizaines de policiers, c'était en septembre 2000, sont venus nous aussi que l'opération terroriste du 7 octobre 2023 a été nommée
déluge d'Al-Aqsa. Et puis, évidemment, il y a des quartiers qui sont aujourd'hui particulièrement ciblés hein, par la politique de colonisation israélienne, Silwan, au sud de la vieille ville, Sheikh Jarrah, au nord. Et puis, il y a eu des événements récents. Les dernières fêtes du Ramadan, c'était la première fois depuis la guerre des six jours que pendant pratiquement toute la durée du Ramadan, l'esplanade des mosquées était inaccessible pour des raisons soi-disant sécuritaires, mais qui ne trompaient pas grand monde. Et puis, il y a un autre élément nouveau dans ce qui se passe à Jérusalem qui se met à intéresser un petit peu les diplomates occidentaux et même les chaînes de télévision. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand on crache sur quelqu'un qui est chrétien. Alors là, ça passe pas du tout, et ça scandalise tout le monde. En tout cas, c'est le moment où on peut pointer ce qui se passe à Jérusalem. Une des façons d'aborder Jérusalem pour les diplomates, quand ils s'y intéressaient, c'était toujours selon le fameux paradigme de la partition, hein, et qui renvoie à l'ensemble du processus d'Oslo. Donc, on trace une ligne très très précisément et puis on discute très très longuement de cette ligne. Et d'un côté de la rue, ce sera l'État d'Israël. De l'autre côté de la rue, ce sera l'État de Palestine, comme si c'était réaliste. Ce que dans ce livre, on a essayé de faire avec un diplomate européen, Bernard Philippe, c'est de penser, de remplacer le paradigme de la partition par le paradigme du partage. Alors, ça fait tout à fait Boy Scout, en fait, hein, mais c'est des solutions qui permettent d'atterrir à Jérusalem, de faire atterrir à Jérusalem des réflexions qui sont aujourd'hui dans les discussions sur la question de l'État binational ou des deux États confédérés. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que aucun des droits essentiels des Palestiniens de Jérusalem ne sont respectés. Et en même temps, on peut aussi constater que les politiques israéliennes à Jérusalem, et particulièrement à Jérusalem, sont mises en échec. Quelques exemples. Alors, premier droit pour un habitant d'une ville, le droit de résider. Le droit aussi de quitter cette ville et d'y revenir éventuellement. Vous savez que les Palestiniens de Jérusalem ne sont pas porteurs d'un droit de résidence permanent. Ils ont un droit de résidence provisoire et ils ont eux-mêmes la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'ils doivent en permanence démontrer, prouver que Jérusalem est leur centre de vie, entre guillemets. Ce qui s'est passé en 1967, du point de vue israélien, il faut le dire, est une décision qui est contraire avec ce qui avait été décidé en 1948. C'est-à-dire qu'en 1967, à la fin de l'année, Israël a décidé d'annexer Jérusalem-Est, ce qui n'a pas été le cas pour la Cisjordanie, comme vous le savez, donc d'annexer un territoire, mais d'une certaine manière sans annexer sa population. C'est-à-dire que les Palestiniens de Jérusalem ne sont pas devenus israéliens, à la différence des Palestiniens, qu'on appelle les Palestiniens de 1948, et qui donc ont une citoyenneté, certes imparfaite, mais des possibilités d'être représentés, de se présenter. Et donc ce droit de résidence, il est provisoire, il doit en permanence être réactivé par les Palestiniens eux-mêmes. Et il a été supprimé environ 15 000 fois depuis 1967, c'est-à-dire qu'il y a 15 000 Palestiniens qui ont perdu leur droit de résidence en à peu près 60 ans. En fait, ce qui est frappant, donc c'est évidemment un déni de droit, ce qui est frappant, c'est que cette politique qui visait à essayer d'expulser petit à petit les Palestiniens de Jérusalem par ce droit de résidence provisoire a plutôt contribué à les fixer sur place. En 1967, il y avait 25% de Palestiniens à Jérusalem dans les nouvelles frontières municipales. Ils sont aujourd'hui 40%. C'est assez contre-intuitif parce que dans le même temps, il y a de la colonisation, il y a des expulsions, il y a des évictions, mais la population palestinienne de Jérusalem fait mieux que résister. Elle a été multipliée, si on parle en chiffres absolus, elle a été multipliée par 6 entre 1967 et aujourd'hui, sur le même territoire et pratiquement sans permis de construire, ce qui est tout à fait notable. Dans le même temps, la population juive israélienne de Jérusalem a été multipliée par 3 à peu près, hein, de 200 000 à 600 000. Et si on s'intéresse à la vieille ville, qui représente quand même le cœur historique de la ville, et y compris sur le plan symbolique, les chiffres que je vous donne sont les chiffres de statistiques de la municipalité israélienne de Jérusalem. Hein. Donc a priori, ils sont pas exagérés du point de vue de la population palestinienne, on voit pas pourquoi. Dans la vieille ville, aujourd'hui, à l'intérieur des murs, vivent moins de 10% de juifs israéliens. Moins de 10%. C'est-à-dire entre 3000 et 3500 de juifs israéliens dans la vieille ville où il y a 35 000 habitants permanents. Et donc, ça crée, je reviens un petit peu à ce que disait Sylvain, c'est-à-dire cette espèce de paradoxe entre cette espèce de discours de puissance et cette peur de l'impuissance et qui en fait cohabite dans l'esprit de beaucoup d'Israéliens, y compris de droite ou d'extrême droite. Et un moment où on le voit très bien, c'est au moment de la marche des drapeaux, Yom HaYerushalayim, le jour de Jérusalem. Vous voyez des gamins, je dis des gamins parce que oui, souvent ils sont très jeunes, qui arrivent en bus des colonies de Cisjordanie, à qui on explique depuis qu'ils sont nés que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Et ils arrivent dans une vieille ville, ils ont des yeux pour voir, hein, qui est arabe. Et ça les met dans une colère extrême, quoi. Et c'est tous les ans la même chose. Ils se cognent sur le réel, en fait. Ils se cognent sur le réel. Et voilà. Donc il faut toujours faire la part à Jérusalem entre les drapeaux, les soldats, les policiers, les pèlerins. Enfin, oui, tous. Mais si vous attendez que tout ce petit monde soit rentré chez lui le soir, soit dans ses colonies, soit dans ses casernes, etc., et que vous comptez les gens qui sont là et qui dorment, eh ben dans la vieille ville, il y a toujours à peu près 90% de Palestiniens. Donc, ce droit de résidence, c'est une politique qui a été complètement, un échec hein, pour les Israéliens. Du côté du logement, à l'inverse, 95% des demandes de permis de construire à Jérusalem-Est, quand ils sont déposés par des Palestiniens, sont refusées. Hein, la statistique, c'est à peu près ça. Donc, et quiconque a été à Jérusalem-Est le voit, le sait, ça veut dire que cette population multipliée par 6, elle s'est faite pratiquement sans permis de construire. Donc les familles ont coupé les pièces en deux, en trois, ont occupé les balcons, ont occupé les toits-terrasses, ont transformé le garage en chambre pour les enfants. Et puis bien sûr, ont construit aussi illégalement, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, 30% de la population palestinienne de Jérusalem vit sous la menace immédiate d'un avis d'expulsion et de destruction. 30%, hein, c'est pas une minorité. 120 à 130 000 Palestiniens de Jérusalem qui souvent sont contraints de démolir eux-mêmes leurs maisons, sinon ça leur est largement surfacturé quand c'est les autorités israéliennes qui s'en chargent. Donc le droit de résidence n'est pas garanti, le droit au logement évidemment non plus, le droit de circulation. Hein, une ville, c'est un endroit où on peut circuler. Aujourd'hui, 160 000 Palestiniens de Jérusalem, donc ils vivent dans la municipalité de Jérusalem, qui payent leurs impôts locaux, payent la taxe d'habitation, sont séparés de la ville dans laquelle ils vivent par un mur de 8 mètres de haut et par des checkpoints, en particulier les habitants de Chouafat. Donc ils sont dans la municipalité, mais il y a un mur de béton de 8 mètres. Il faut bien avoir en tête que ce mur, on sait que ce mur, il s'enfonce très largement à l'intérieur de la Cisjordanie. Ça, on le sait, Ariel, tout ça, on l'a en tête. Il faut zoomer un petit peu sur Jérusalem pour se convaincre que ce mur empiète à l'intérieur même des frontières de la municipalité israélienne de Jérusalem. Imaginez si une partie du 19e arrondissement était séparée du centre de Paris par un mur de 8 mètres de haut. Et puis, je terminerai sur la question de la pauvreté. Aujourd'hui, plus des deux tiers de la population palestinienne de Jérusalem vit sous le seuil de pauvreté. Plus de 70% des enfants palestiniens de Jérusalem-Est vivent sous le seuil de pauvreté. Et cette crise socio-économique ne fait que s'aggraver parce que les capacités des Palestiniens de Jérusalem-Est à travailler, ou à échanger, à interagir avec les populations de Cisjordanie sont de plus en plus difficiles. Et la construction en zone 1 rendrait ça absolument impraticable. Et on estime que 8 à 10% du budget municipal est dépensé à Jérusalem-Est. Bon, ce qui veut dire que 92% est dépensé à Jérusalem-Ouest. Bon, quand vous dépensez 92% de votre budget sur la partie la plus riche de la ville, ben le fossé entre les deux Jérusalem ne cesse de se creuser. Donc voilà, Jérusalem est de moins en moins une et de moins en moins indivisible. Elle est de plus en plus divisée. Le fossé ne cesse de s'élargir. J'ai pas le temps de développer ce qui était la page, non pas optimiste, mais la proposition, on va dire, optimiste, réaliste pour Jérusalem. Soit vous regarderez le livre, soit on en discutera. Je suis certain, et on est un certain nombre à considérer que oui, Jérusalem peut parfaitement être la capitale de deux États. Vous savez que c'est la position par ailleurs de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne ne conteste pas le fait que Jérusalem-Ouest puisse être la capitale d'Israël. Il faudrait pour ça une extension de son périmètre géographique vers l'est. C'est une ville complètement hémiplégique aujourd'hui, hein. La vieille ville n'est pas du tout au milieu. On a étendu le périmètre municipal à l'ouest pour intégrer le plus possible de populations juives israéliennes. Et à l'inverse, à l'est, au-delà de 500, 600 mètres, 800 mètres, vous êtes en dehors de la municipalité. Donc il faudrait étendre son périmètre géographique. Il faudrait également étendre son périmètre de compétences. Il faudrait que la municipalité de Jérusalem soit véritablement compétente pour que, éventuellement, les Palestiniens de Jérusalem aient envie de s'y investir et de voter aux élections municipales. Savez-vous, sans doute pas, que dans le gouvernement israélien, depuis une vingtaine d'années, il y a un ministre de Jérusalem. Hein, ça dit tout. Ça veut dire qu'évidemment, la municipalité israélienne de Jérusalem est une courroie de transmission du gouvernement. Il n'y a pas de ministre de Paris. Hein, et s'il y en avait un, ce serait assez symptomatique. Des municipalités d'arrondissement, une police municipale, enfin voilà. Il y a évidemment une feuille de route tout à fait réaliste pour faire de Jérusalem la capitale de deux États. Ça n'est pas le sujet le plus difficile de la relation israélo-palestinienne, contrairement à ce qu'on dit souvent. Aucune des solutions que l'on préconise ne pourrait être appliquée dans le contexte politique actuel. Aucune. Hein, c'est pas réaliste. Donc la seule chose à faire aujourd'hui, je rejoins Sylvain Sipel, pour essayer de faire plier ce gouvernement, pour essayer de faire aussi comprendre à la population israélienne qu'il y a un prix à payer à tout cela, c'est non pas des menaces de sanctions, mais des sanctions, S-A-N-C-T-I-O-N-S. Et je pense qu'il faudrait que dans toutes les prises de parole désormais, dans toutes les actions, dans toutes les réflexions, le terme de sanctions soit omniprésent, envahissant. On voit quand même qu'y compris dans les médias, les journalistes maintenant commencent à s'en emparer. Et voilà. Même le ministre Jean-Noël Barrot a pris le mot. Il l'a vidé de son sens, hein. Il a écrit sanction sur une boîte vide, mais prenons le mot et remplissons la boîte. Merci beaucoup.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Merci Vincent. Donc je rappelle aux intervenants et intervenantes qui vont suivre, le délai de 10 minutes. J'ai mis la montre sur la table là. Alors, je ne peux pas passer la parole à Ziad Majed, qui est au Liban. Il avait bien prévu d'être avec nous aujourd'hui, il devait prendre son avion hier soir, mais si j'ai bien compris, il a préféré rester au Liban parce qu'il allait bénéficier d'un court laps de temps, aujourd'hui même, pour passer dans le sud du Liban, là d'où il est originaire, pour éventuellement voir un peu ce qu'était devenu ses biens et ce qu'il pouvait en récupérer.
La maison familiale.
La maison familiale. Hein, donc, il n'est pas là, il le regrette, nous aussi d'ailleurs. Et il compte sur les présents pour se substituer à lui et évoquer tous les sujets qu'il aurait traités s'il avait été avec nous. Donc je vais passer la parole à Lena Salaimé, qui est une collègue plus que les autres, si je puis dire, puisqu'elle est ma collègue à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. Il détient la chaire de tradition islamique tardo-antique. Par ailleurs, elle est une juriste émérite et s'intéresse évidemment aux questions qui nous préoccupent aujourd'hui, le droit international, les conditions d'une décolonisation, enfin c'est de cela qu'elle doit nous parler. Donc, elle a préparé un PowerPoint qui se trouve être projeté ici, donc la Sorbonne est moderne. Merci Léna, je te passe la parole.
Merci à Esther et Jean-Christophe d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité à y participer. Je tiens tout d'abord à préciser que je m'exprime ici en tant que juriste et historienne spécialisée dans les droits internationaux et la critique décoloniale. De mon point de vue d'historienne, l'avenir à long terme de la Palestine et de la colonie de peuplement sioniste est évident et non pas incertain. Cela dit, au positif figurent deux listes parallèles présentant des exemples historiques de colonies de peuplement. La plupart des colonies de peuplement sont démantelées. Ensuite, les colons quittent ou s'assimilent à la population autochtone. L'histoire nous enseigne que la colonie de peuplement prendra fin un jour et que les colons perdront leur statut hégémonique. La France n'est pas seulement elle-même un État doté des colonies de peuplement, c'est aussi l'un des nombreux États qui soutiennent la colonie de peuplement euro-américaine connue sous le nom d'Israël. Si l'avenir à long terme est assez clair, celui à court terme est moins prévisible. La question la plus urgente est comment mettre fin à la vague de violences sionistes. Combien d'autres Palestiniens innocents seront assassinés, torturés, emprisonnés pendant que les sionistes continuent de tenter de ressusciter leur projet de colonisation? Il est impossible de prédire quelle ampleur prendra encore la violence sioniste. Combien d'enfants massacrés, de femmes violées, de hommes torturés faudra-t-il pour convaincre les États euro-américains qui soutiennent ce projet d'abandonner leur colonie de peuplement? Il est impossible de prédire avec précision ce qui convaincra les États euro-américains de cesser de normaliser la colonie de peuplement. Entre les violences effroyables dont nous sommes témoins aujourd'hui et la dissolution inévitable de la colonie de peuplement sioniste, se trouve un processus de décolonisation qui doit être mené et défini par la population autochtone. Cet après-midi, nous devrions nous interroger sur la complicité persistante de la France dans les crimes sionistes. La France fournit aux colons sionistes des armes et une légitimité depuis avant même la création de la colonie en 1948. L'un des outils que la France, comme de nombreux autres États, a utilisé pour dissimuler sa complicité est ce qu'on appelle le droit international. Comme je vais expliquer, le système juridique international contemporain est une forme de néocolonialisme et il ne peut servir de base à la décolonisation d'Israël ou à la libération de la Palestine. Le système juridique international contemporain a été initié et façonné par les sociétés coloniales. Entre le 16e et le 19e siècle, à l'époque de l'expansion coloniale européenne, des juristes européens ont rédigé des textes qui se présentaient comme des principes juridiques universels. Ce droit international colonial a légitimé la domination coloniale, facilité l'acquisition des territoires et imposé la mission civilisatrice coloniale. Le droit international colonial présentait la violence coloniale comme légitime et qualifie la violence anticoloniale d'illégitime ou de barbare. Ce droit a été principalement élaboré pour protéger les intérêts des États coloniaux et ne protéger explicitement pas les peuples colonisés. Au 19e siècle, une nouvelle forme de colonialisme a vu le jour, connue sous le nom de néocolonialisme. Comme l'expliquait Jean-Paul Sartre, le néocolonialisme est la mystification du colonialisme. Au XXe siècle, les États coloniaux n'ont pas reconnu la souveraineté des peuples colonisés pendant la période dite de décolonisation. Au lieu de cela, ils ont officiellement transféré l'autorité sur ces peuples à des mandataires locaux et à des institutions juridiques internationales. De manière informelle, ils continuent de contrôler les peuples colonisés par le biais des changements de régime et d'un système de gouvernance internationale. Comme l'indique l'image sur la diapositive, aujourd'hui, la plupart des États du Sud global sont sous le contrôle militaire des États-Unis, qui disposent d'environ 800 bases militaires internationales. De plus, le système financier et bancaire mondial est réglementé et dominé par le Nord. Il est conçu pour transférer les ressources et les richesses du Sud vers le Nord. En effet, la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux imposent non seulement des réglementations financières qui désavantagent le Sud, mais ils recourent également à la coercion économique pour imposer des changements sociaux et politiques dans les sociétés du Sud. Les systèmes juridiques internationaux actuels mystifient l'institutionnalisation du droit colonial. La transformation historique du colonialisme en néocolonialisme est manifeste dans l'histoire du zionisme. À la fin du 19e siècle, les zionistes ont affiché leurs ambitions coloniales à travers les campagnes de collecte de fonds menées par l'Association juive de colonisation et le Jewish Colonial Trust. Souvent considérés comme les fondateurs du mouvement zioniste, Theodor Herzl envisageait tant la Palestine que l'Argentine pour une colonisation. Peu après la mort de Herzl, la déclaration de Balfour de 1917 transférait la colonisation britannique de la Palestine aux colons zionistes. En 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopta un plan de partition qui accordait 56% de la Palestine aux colons, qui constituait une petite minorité par rapport aux Palestiniens autochtones. La Palestine n'appartenait ni à la Grande-Bretagne, ni à l'Assemblée générale des Nations unies, et ces deux décisions sont des exemples de néocolonialisme. Alors que la colonie du peuplement zioniste était en train de se mettre en place, de nombreuses sociétés du Sud en cherchaient à obtenir et ont progressivement obtenu une soi-disant indépendance nationale vis-à-vis des États coloniaux. Dans ce contexte, les zionistes ont progressivement et de plus en plus présenté le zionisme comme un mouvement nationaliste. Parallèlement, les zionistes ont établi un contrôle néocolonial sur les régions voisines de la Palestine afin d'empêcher toute résistance à leur colonie du peuplement. Le colonialisme du peuplement est un processus sans fin marqué par une violence extrême infligée à une population autochtone et bien sûr civile. En 1948, les colons zionistes ont massacré des milliers de Palestiniens, ont expulsé plus de 750 000 et ont détruit plus de 530 villages palestiniens. En réponse, la même année, les Nations unies ont reconnu les droits des Palestiniens au retour et à des réparations, dont la résolution 194. Malgré l'échec de la mise en œuvre de cette résolution, les Nations unies ont admis Israël en tant qu'État membre en 1949. Cette reconnaissance internationale a dépénalisé les massacres des Palestiniens et l'occupation de 78% de la Palestine historique. En effet, le ONU a annulé la résolution 194 en légitimant la colonie du peuplement zioniste. En qualifiant Israël d'État-nation soi-disant démocratique, le système juridique international contemporain mystifie le colonialisme du peuplement zioniste. La résolution 242 de l'ONU a officiellement interdit les occupations de 1967, mais les zionistes qualifient toutes les formes de résistance palestinienne contre cette occupation de terrorisme et de menace pour la colonie du peuplement. L'Assemblée générale des Nations unies a officiellement reconnu les droits à l'autodétermination et à la résistance armée contre le colonialisme en 1983. Cependant, le système juridique international crée une contradiction en reconnaissant simultanément la souveraineté des États qui font l'objet d'une néocolonisation et en sacralisant un État contrôlé par des mandataires néocoloniaux, en délégitimant la violence anticoloniale et en laissant entendre qu'il existe un droit à l'autodétermination. Par conséquent, les systèmes juridiques internationaux contemporains n'offrent en réalité qu'une seule forme d'autodétermination, une soi-disant État postcolonial qui sous domination néocoloniale. C'est pourquoi, en utilisant le langage du droit international, les accords de Oslo ont criminalisé la résistance palestinienne et ont fait d'une bande corrompue, à savoir l'autorité palestinienne, les mandataires du néocolonialisme zioniste. La France et d'autres États du Nord soutiennent rhétoriquement les systèmes juridiques internationaux parce qu'il est conçu pour permettre ce type de contrôle néocolonial des sociétés du Sud global. La sacralisation de l'État par les systèmes juridiques internationaux a fourni à la colonie du peuplement des justifications et des prétextes pour sa violence. Au nom de la sécurité nationale, Israël a transformé la Cisjordanie en une prison à ciel ouvert et Gaza en un camp de concentration, aujourd'hui un camp d'extermination, soumis à des conditions inhumaines de privation alimentaire, à un blocus restrictif et à des massacres périodiques. En 2018, les Palestiniens emprisonnés dans les camps de concentration de Gaza, dont plus de 80% sont des réfugiés expulsés par les zionistes au XXe siècle, ont entamé la grande marche de retour vers la barrière du camp, revendiquant leurs prétendus droits internationaux. Israël a répondu à cette marche pacifique en s'en prenant brutalement aux enfants, aux personnes handicapées et aux autres. Le système juridique international n'a jamais sanctionné ni puni Israël pour aucun de ses crimes. La France a instrumentalisé les droits internationaux pour dissimuler son soutien et sa légitimation de la colonie. Depuis 2023, les zionistes ont assassiné directement ou indirectement une demi-million de Palestiniens à Gaza au cours du siège d'extermination. Leur objectif est de tenter de modifier la réalité démographique malgré 80 ans de massacres, de déplacements forcés et d'oppression systémique. Les Palestiniens représentent au moins 50% de la population de la Palestine historique. Les colons zionistes et les néocolonialistes n'ont jamais eu l'intention d'accorder aux Palestiniens un État souverain. Le plan de partition, également connu sous le nom de solution à deux États, est un conte de fées. La France continue de propager ses contes de fées à deux États. Le système juridique international actuel constitue un obstacle à la décolonisation qu'il ne qualifie pas de crime de colonialisme du peuplement ni le néocolonialisme. Il ne définit pas non plus du processus de décolonisation. Le système juridique international ne fournit aucune indication sur la manière dont devraient être punis les plus de 60 000 Israéliens qui ont participé au génocide en cours à Gaza. Il ne fournit pas non plus d'indication sur la manière dont les zionistes qui ont opprimé, assassiné et torturé les Palestiniens au cours des 80 dernières années devraient être punis. Il ne fournit pas non plus d'indication sur la manière de criminaliser ou de mettre fin au contrôle néocolonial de tous les États de la région qui sont gérés par des régimes fantoches. Le système juridique international contemporain n'est qu'un instrument de mystification néocoloniale. En conclusion, quel est l'avenir de la complicité de la France avec les zionismes? Combien de temps faudra-t-il à la France pour reconnaître que son soutien à la colonisation de la Palestine est moralement indéfendable? Quelle forme de réparation la France devrait-elle verser aux Palestiniens autochtones? Telles sont les questions qui devraient être au cours de notre discussion aujourd'hui. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus sur les arguments que j'ai résumés ici assez rapidement, une courte bibliographie est fournie sur la diapositive et disponible sur mon profil academia.edu. Merci pour votre attention.
Calme dans la salle. Je vais donner la parole à Denis Siffert. Denis Siffert est personne qui s'occupe depuis très longtemps de ces sujets. Il a été éditorialiste à l'hebdomadaire. Il est éditorialiste à l'hebdomadaire Politis qu'il avait dirigé jusqu'à sa retraite. Il est enseignant à l'Institut des Relations internationales et stratégiques et son dernier livre paru est La mauvaise cause, les intellectuels et la propagande israélienne en France, paru en 2026.
Merci Esther. Je ne sais pas si mon intervention va calmer les ardeurs exprimées plus loin, mais on est tous prêts, je crois, à débattre de ce que l'on dit. Pour ma part, je vais parler beaucoup du sionisme, parce que je pense que l'histoire d'Israël, évidemment, est dissociablement liée à l'histoire du sionisme, qui est une histoire complexe à l'origine. Je ne nie pas que ce fut en effet un mouvement émancipateur du point de vue des Juifs, mais ce fut aussi tout de suite un mouvement colonial. Et aujourd'hui, je crois que, sauf à être aveugle ou de très mauvaise foi, ce n'est plus qu'un mouvement colonial, et ce depuis très longtemps déjà. Alors la question que je me suis posée, c'est à quel moment de l'histoire du sionisme sommes-nous ? Nous sommes dans un moment extrême. Je serais assez prudent pour ne surtout pas dire ultime, mais extrême. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le plan d'Alet en avril 1948, qui a été un plan d'épuration ethnique extrêmement violent. Il y a eu 1967, il y a eu la répression de la deuxième intifada au début de 2001. Donc c'est pas la première fois que on est dans un moment de violence extrême. Et je crois que là, on atteint des seuils qui n'ont jamais été connus dans l'histoire du sionisme. Et la question est de savoir si c'est supportable pour les Palestiniens. Ça ne l'est évidemment pas. Mais si ça l'est, si ça va l'être durablement pour les Israéliens eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne voit pas de signe, disons, de lassitude de cette violence, de ce côté. Mais on peut effectivement espérer que les choses vont changer. Il y a un événement qui est passé presque inaperçu, qui m'a beaucoup intéressé. C'était en janvier 2024, à Jérusalem. Ben Gvir, donc le suprémaciste juif le plus extrémiste, a organisé ce qu'il avait appelé une fête de la victoire avec des colons, etc. On était donc 3 mois après le 7 octobre, la fête de la victoire. Ça paraît un peu étrange puisque on peut dire que la population israélienne à ce moment-là était tétanisée par le malheur. On parlait de pogrom, on parlait de Nouvelle Shoah, etc. Ce sont des mots que je reprenais pas à mon compte, mais enfin, c'est les mots qui étaient dominants, disons, dans l'ambiance israélienne. Alors on a dansé ce jour-là, et on a dansé sur les morts palestiniens, c'est bien naturel, mais on a dansé sur les morts israéliens aussi, sur les otages, et très curieusement, la sociologue Eva Illouz, que je rinte un petit peu, mais gentiment, dans un livre qui a été cité, dit « Ben Gvir a trahi le sionisme ». Et j'ose la contredire, pour dire que finalement, est-ce qu'il n'a pas accompli l'objectif historique du sionisme? Est-ce qu'il n'est pas en train de l'accomplir? Il a compris en tout cas, ce jour-là, et il l'a manifesté par cette fête tout à fait paradoxale, que un boulevard s'ouvrait pour la réalisation d'objectifs sionistes après le 7 octobre. Et il a effectivement eu raison à certains égards, puisque c'est quoi la suite de l'objectif du colonial, du sionisme, parce que le sionisme, dans la définition que j'en donne, qui je crois peut être assez vite partagée, c'est la forme coloniale de peuplement des juifs arrivés en Palestine. Eh bien, effectivement, cette situation nouvelle a ouvert à la fois la possibilité de ce qui s'est passé à Gaza, c'est-à-dire d'un massacre puis d'un génocide. On a rasé des villes entières. C'est aussi ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours en Cisjordanie, où il y a des raids contre les villages arabes dans une situation de barbarie et évidemment d'irrespect du droit total. Donc, à certains égards, effectivement, Ben Gvir avait vu juste. Et on est aujourd'hui dans cette situation toujours avec la guerre d'Iran. Alors moins en Iran, parce qu'il n'est pas trop question de coloniser l'Iran, même dans le projet sioniste qui prévoyait du Nil jusqu'à l'Euphrate, donc il y a encore de la marge. Mais par contre, le Liban est totalement dans cette situation, parce que je pense que le sionisme et Israël a toujours deux guerres au feu, si j'ose dire. Une guerre défensive et une guerre de conquête. C'est cette dialectique extrêmement subtile, ou grossière, comme vous voulez, qui permet, disons, à Israël d'avancer et en tout cas de duper le monde, le concert international, comme on dit, duper ou avec la complicité de celui-ci. La guerre défensive, on la voit manifestement, on l'a vu à Gaza, c'était évidemment l'éradication du Hamas, qui n'a pas eu lieu, comme chacun sait. Mais, au Liban, c'est le démantèlement du Hezbollah. Alors, je ne dis pas que ces guerres sont fictives, elles sont réelles. Je ne dis pas que les roquettes du Hezbollah sur le nord d'Israël sont indolores. C'est effectivement un problème majeur pour les populations du nord d'Israël. Mais cependant, on voit très bien qu'il y a parallèlement une guerre de conquête. Et c'est la grande question qui se pose aujourd'hui à Trump, à Netanyahou, à l'Europe et à beaucoup d'autres. C'est-à-dire que, est-ce que, poursuivant, disons, la lutte pour le démantèlement du Hezbollah, Israël occupe aujourd'hui une grande partie du sud du Liban, au-delà même de ce fleuve Litani, qui je crois est une trentaine de kilomètres au-delà de la frontière, et bien au-delà aussi, et alors qu'Israël prend soin, si j'ose dire, de raser des villages libanais entiers, est-ce que Israël a la moindre intention de se retirer de ces territoires? Ou est-ce que la guerre de conquête, là, va passer en contrebande, en quelque sorte, de la guerre de démantèlement du Hezbollah, la guerre dite défensive? Toute l'histoire, disons, d'Israël et du sionisme, c'est cette dialectique entre guerre défensive et guerre offensive. Et aujourd'hui, la question qui se pose, et Sylvain l'a évoqué tout à l'heure, c'est que vont faire les États-Unis, par exemple, j'ose à peine parler de l'Europe, par rapport au refus israélien de se retirer du Liban. Et non seulement d'abord d'arrêter de bombarder le Liban, mais de se retirer et de ne pas considérer comme acquis ces territoires qu'il occupe aujourd'hui. Qu'est-ce que les Américains vont mettre sur la balance pour imposer leur volonté, pour peu qu'ils en aient vraiment la volonté? En tout cas, ils ont une volonté, c'est que Netanyahou ne torpille pas l'accord avec l'Iran. Mais effectivement, si on en reste aux menaces, alors on a vu que Sylvain l'a cité tout à l'heure, Jay Levens a eu des mots très durs, mais les mots même très durs ne suffisent pas s'il n'y a pas de sanctions et si effectivement il n'y a pas des mesures américaines en particulier pour priver Israël des armes et de l'aide économique. Et si ce n'est pas le cas, eh bien Israël va avancer ses pions d'un point de vue territorial. Et on aura effectivement non seulement Gaza réoccupé à 70%, en partie rasé, que les colons convoitent pour prendre une sorte de revanche posthume contre Sharon, qui ils en avaient délogé en 2005, et ce qui se passe en Cisjordanie, qui est tout à fait horrible, ignoble, j'ose à peine dire du point de vue de la morale, parce que c'est devenu un gros mot dans toute cette histoire, où effectivement on brûle les villages, on attaque nuitamment des Arabes qui sont sans défense. Mais ce qui est intéressant aussi en Cisjordanie, c'est qu'il y a un journaliste, je vais le citer d'ailleurs pour ne pas le trahir, un journaliste de Haaretz qui rappelait hier que l'armée israélienne avait distribué quelques 7000 armes aux colons de Cisjordanie et également enrôlé quelques 8000 soldats parmi les colons. C'est-à-dire, on voit que l'armée, disons, je dirais pas qu'elle change de nature, parce que le mouvement était largement engagé, mais enfin, voilà. Et ce journaliste dit quelque chose de très important. Il dit au point que on ne peut plus faire la différence entre les milices des colons et l'armée, c'est-à-dire entre l'État et les bandes armées de Ben-Gvir, etc. Et ça, c'est très important à mes yeux. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager quand on a un peu la mémoire de l'histoire. Parce que, à mon avis, ça s'approche d'une définition stricte de ce qu'on appelle le fascisme. Des milices privées qui agissent avec l'État, au nom de l'État, avec l'aide et les armes de l'État. Et c'est ça. Et le moment sioniste, puisque je posais la question tout à fait au début, à mon avis, c'est celui qui pose cette question. Est-ce que le sionisme devient, alors on me dira que c'est un mouvement, un processus qui est engagé de longue date, mais est devenu tout simplement un mouvement à caractère fasciste et transforme du coup Israël en un État qui peut admettre, disons, ce qualificatif en effet infamant, mais il est infamant pour nous, pour les Palestiniens à coup sûr. Est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il le sera un jour pour les Israéliens? C'est un peu la question qui se pose. Alors, simplement, j'ai voulu citer un personnage important que vous connaissez peut-être, qui était un des dirigeants du Bund, le Bund juif socialiste polonais, mais qui, en 1938, a eu cette prophétie tout à fait forte. Il avait dit, si un jour un État juif voit le jour en terre de Palestine, qu'est-ce que ce sera ? Eh bien, ce sera la guerre éternelle contre les Arabes de l'extérieur, la lutte éternelle contre les Arabes de l'intérieur. Et il posait la question, est-ce que c'est ce qu'on peut imaginer comme idéal démocratique de liberté pour ce futur État juif qui est advenu, comme chez Cassé ? Eh bien, nous y sommes tout à fait aujourd'hui. Et nous y sommes non seulement parce que Israël est un État qui n'est pas du tout démocratique, il ne l'a jamais été pour les Palestiniens, et ça empêche à tout jamais, à mes yeux, de prétendre qu'Israël est une démocratie, puisque un pays qui est colonial, qui opprime un autre peuple, ne peut pas être considéré comme démocratique. Mais c'est attaqué aujourd'hui, et s'attaque même à la démocratie pour les Juifs. Alors, on a évoqué tout à l'heure la loi de juillet 2018 de l'État-nation du peuple juif, qui, dans ses considérants, autorise explicitement à la colonisation, qui relègue la langue arabe. Et surtout, il y avait le projet de réforme judiciaire qui a, non pas avorté, mais qui a été suspendu à cause du 7 octobre, et qui est une tentative, les mots aimables disent, illibérale, mais je pense fascisante, qui conduit tout simplement à rétrograder, à affaiblir l'indépendance de la justice pour donner la prééminence à un exécutif qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui est un exécutif fascisant. Alors, pour conclure, si j'ose dire, provisoirement, je m'interrogerai sur une sorte de paradoxe. Je sais qu'il est bon temps de terminer par une note d'espoir. Je n'en ai pas dans ma besace, mais on va essayer quand même. C'est sûr que le personnel politique aujourd'hui en Israël n'autorise à aucune espérance démesurée, que l'état de l'opinion non plus. Mais je pense quand même que ça peut changer. J'ai une sorte comme ça de croyance que le mécréant que je suis s'autorise. Mais c'est effectivement. Est-ce que les gens vont tolérer longtemps, ils étaient jusqu'à maintenant israéliens, sionistes, et est-ce qu'ils vont tolérer d'être aussi fascistes, d'être des parias dans le monde actuel ? C'est le cas aujourd'hui. Hein. Quand Vance dit à Netanyahou, vous n'avez plus qu'un seul ami dans le monde. C'est Trump, vous n'avez peut-être pas intérêt à vous fâcher avec lui. Donc on est dans cette situation où on peut imaginer paradoxalement que la course à l'abîme, c'est le titre d'un livre magnifique d'Omer Bartov, le titre c'est Israël court à l'abîme, la course à l'abîme, on n'en est pas loin. Et est-ce que précisément ce n'est pas la limite à partir duquel on peut espérer que j'ose pas dire une gauche, mais enfin quelque chose qui ressemblerait en tout cas à un humanisme de la population serait comme un ressort et autoriserait un rebond de cette population et également une prise de conscience internationale, parce que là effectivement je adhère totalement à ce qu'a dit Vincent Lemire, c'est-à-dire qu'effectivement si ça était accompagné de sanctions, je pense que ça accélérerait le processus de prise de conscience. Les sanctions, on a vu les possibilités américaines, j'y crois guère, j'ai peur que ce soit simplement l'écume d'un conflit tout à fait conjoncturel qui a un rapport avec les calendriers électoraux des uns et des autres. Il y en a un qui a intérêt à la paix, l'autre qui a intérêt à la guerre, mais côté européen, quoi ? Côté français, quoi ? On voit rien, une hypocrisie terrible. On sanctionne Ben-Gvir et Smotrich pour ne pas sanctionner Israël, pour ne pas rompre l'accord d'association. Et donc, on est là dans une duplicité absolue. Et j'ajouterais même qu'on empêche, par exemple, un représentant d'une organisation des droits humains palestinien de venir à Paris. On lui a interdit son visa, alors que les autres pays européens l'ont autorisé. Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer de ce côté. Il y a à espérer peut-être plus, finalement, à terme, avec un processus peut-être long, mais une prise de conscience d'Israéliens et la formation d'un leadership, il en a été question tout à l'heure, palestinien qui, pour l'instant, malheureusement, ils vont être au point mort, mais qui peut aussi bouger. Mais tout ça a une cohérence, une unité, si j'ose dire, qui est indissociable.
Merci.
Allegre FM 93.1.
Vous venez d'écouter la première partie du colloque intitulé « Quel avenir pour la Palestine et Israël ?» qui s'est tenu le 26 juin 2026 à la Sorbonne. Allegre FM, partenaire de l'événement, vous propose d'en écouter les interventions et le débat.